Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sors le Popcorn, le podcast ciné-série de Mademoiselle. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Mimi.
Coucou.
Mais j'ai aussi un invité très très spécial aujourd'hui qui s'appelle Kevin Donna. Salut Kevin.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour, pourquoi je dis bonsoir?
Mais moi elle je dis bonsoir tout le temps. Je sais pas, j'ai l'impression quand on parle de film, tu vois, on est un peu... Le soir, je sais pas pourquoi.
On sort de l'UGC. C'est
ouais,
bon
c'est ça.
On
sort de l'UGC, tout juste. Du coup, Kevin, tu organises des visites guidées qui s'appellent le Paris Noir.
Tout à fait.
Et tu fais aussi partie du podcast Le Chip.
C'est ça.
C'est ça.
Oui.
J'ai rien loupé.
Tout est vrai.
Ok. Bah, super.
Est-ce que tu peux présenter un peu le Chip et puis les visites du Paris Noir pour celles qui ne connaissent pas?
Le Chip, c'est un podcast culturel noir que je co-anime depuis 3 ans avec Mélanie Wonga et François Aulac. Donc, deux amis journalistes noirs, et on parle de pop culture avec notre angle, notre point de vue. C'est assez large. Et puis ensuite, le Paris Noir, c'est mon métier. Je suis conférencier, donc j'organise des visites dans Paris qui retracent les grands parcours, enfin les parcours de grandes personnalités venues du monde noir au sens très large.
Ok.
Donc voilà.
Trop cool. Et aujourd'hui, du coup, on va parler d'un film qui s'appelle Tout simplement Noir, et qui sort au cinéma, enfin qui est sorti au cinéma le 8 juillet, puisqu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, nous sommes déjà le 10 juillet.
Incroyable.
Voilà. Dans le futur.
On est dans le futur de fou. Et donc vous pourrez, après avoir écouté ce podcast, aller le voir ce week-end, c'est ça qui est fou. Voilà, alors, mais si vous ne l'avez pas encore vu, comme d'habitude, pas de panique, la première moitié de Sors le Popcorn est sans spoiler, donc vous pouvez l'écouter jusqu'à l'alarme, et si vous dire que vous avez envie de le voir, allez le voir et revenir écouter la fin de Sors le Popcorn.
Tout à fait.
Tellement bien fait.
Ah, c'est ça. Voilà, alors je vais vous pitcher un petit peu le film. C'est une sorte de faux documentaire qui suit JP, un acteur de 38 ans qui a jamais vraiment percé et qui décide d'organiser une grande marche de contestation noire en France. Et au fur et à mesure de ses rencontres, il entame un vrai chemin vers le militantisme qui lui ouvre les yeux sur plein d'aspects de la lutte qu'il ne soupçonnait pas. Et le film est écrit par et réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax. Et sur le scénario, on retrouve aussi Fabrice Eboué et Kamel Gemra, en plus de Jean-Pascal Zadi et John Wax. Et donc Jean-Pascal tient aussi le premier rôle du film et s'entoure d'un casting assez incroyable. D'ailleurs, il y a vraiment une super bande-annonce sur fond de Ante Up de M.O.P. Là, c'est vraiment incroyable cette bande-annonce. Enfin, moi, j'ai trop kiffé. Et ça montre vraiment l'étendue de la fame du casting. Donc on a Farid, Claudia Tagbo, Stéphie Selma, Joe Star, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor, Fabrice Eboué, Mela et Ramzi Bedia, Jonathan Cohen, Fadili Camara. Enfin bref. Je vais pas vous faire toute la liste, tout le gratin. Voilà, c'est un casting donc presque entièrement noir, ce qui est assez rare dans le cinéma français, puisque en fait on réserve souvent aux acteurs noirs les seconds rôles, ou alors c'est des premiers rôles mais dont en fait la couleur de leur peau et leur leitmotiv, comment dire,
oui, c'est leur arc narratif, quoi.
Ouais, c'est leur arc narratif. Donc voilà, c'est un film vraiment ouf. Alors, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce que vous attendiez du film en voyant les bandes-annonces, en voyant les affiches?
Moi, j'en attendais beaucoup. J'avais peur d'être frustré pour deux raisons. C'est j'ai plein de choses à reprocher au cinéma français sur le traitement de la question noire. Et puis en plus, souvent, quand une bande-annonce est aussi hypante, on peut être que déçu. Mm. Et donc, j'avais de grosses attentes depuis des mois. C'est arrivé à un niveau tel que sur les dernières semaines, je voulais plus regarder la bande-annonce, alors que YouTube me l'a suggéré en permanence. J'ai dit, ah non, je veux plus la regarder parce que ça a tellement remonté encore mes attentes que je vais être trop déçu. Donc voilà.
Ouais, je comprends. Moi, j'avais peur aussi du film à sketch un peu parce que c'est plein de personnalités vraiment ultra différentes et on a l'impression qu'il y en a tellement. Tu te dis, mais qu'est-ce que cette histoire en fait? Enfin, ça pitche pas vraiment l'histoire en fait du film. Donc j'avais vraiment peur d'un gros film à sketch qui sache pas trop où aller. Et même avant ça, parce que en fait, le film, je l'ai pas dit, mais était prévu pour sortir avant le confinement. Donc il était prévu, je crois, début avril, il me ensemble. Donc il a été décalé au 8 juillet. Donc voilà, et ouais, je sais pas, j'avais peur aussi de la comédie française sur ce sujet, tu vois, genre je suis là, je sais pas, j'ai peur que ça me gêne de fou, quoi. Enfin voilà, toi t'attendais quoi, Mimi?
Alors moi j'ai pas regardé la bande-annonce parce que l'affiche suffisait à me hyper et que j'aime pas regarder les bandes-annonces des films que je sais que je vais voir parce que souvent, surtout pour les comédies, t'as les meilleures vannes dedans. Donc j'avais regardé, je crois, juste le tout premier extrait avec Claudia Tagbo.
Ouais.
Et j'étais là, bon bah vendu, enfin j'avais déjà signé, mais là je suis sûre, donc je vais plus rien regarder.
Est-ce que tu peux décrire l'affiche?
L'affiche du coup c'est Jean-Pascal Zadi en président, donc avec une photo officielle de président avec le drapeau de la République française et juste ce titre tout simplement noir, et j'étais là, je sais pas ce que c'est mais je le veux, donc je vais attendre.
Il y a aussi une autre affiche alternative,
oui, où il fait la liberté
guide dans le peuple, et je trouve ça très drôle. Je l'ai fait en soirée costumée il y a très longtemps. Exactement pareil, la même tenue, en disant si c'est pas politique c'est pas drôle, donc encore une raison de plus, ah, mais c'est pas possible, putain, il a écrit pour moi. Donc voilà, ouais.
Et après, au niveau des attentes, moi j'avais peur de deux choses, c'est qu'il soit soit trop caricatural, comme tu dis, la comédie française n'est pas extrêmement rassurante sur les questions de diversité, on va dire, soit qu'il soit limite un peu trop niche, et je me disais, en gros, est-ce que si j'emmène mes potes pas trop politisés, ou mes parents par exemple, voir ce film, est-ce qu'ils vont comprendre ce qui se passe, ou est-ce que ça va juste être un film qui s'adresse aux personnes déjà versées dans la lutte antiraciste ou pas. Et du coup, c'était mes deux inquiétudes, c'était que ce soit soit trop léger, soit pas assez léger, et du coup, tu perds un peu tout le monde. Mais écoute, je te dirai mon ressenti à ta
prochaine question. Mais est-ce que t'as été surprise ?
Oui, j'ai été très surprise, mais très positivement surprise. J'ai été vraiment conquise par ce film à plein de niveaux.
Mais je crois que tout le monde ici, non ?
Ouais, mais je cherche des trucs négatifs à dire pour essayer d'être un peu objectif et critique et tout. Et non, c'est un grand oui. Alors après, je peux en parler pendant très longtemps pourquoi c'est un grand oui. Mais oui, à la question, est-ce que j'ai aimé ? Oui.
Ouais, oui. Bah moi aussi, puis j'ai trouvé que ça avait vraiment, enfin, c'était intelligent et drôle. Et c'est pas souvent le cas. Hein.
Et oui.
Mais c'est vrai, dans les comédies françaises. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un peu un voyage initiatique aussi dans le militantisme et que ça pouvait s'appliquer à plein de choses en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça ultra intéressant et je m'y attendais, mais vraiment pas du tout parce que, comme j'ai dit, je savais pas de quoi le film allait traiter. Donc non, vraiment, j'ai été séduite aussi. Et du coup, j'ai parlé de tous ces guests qui sont dans le film. Est-ce que vous en avez un préféré ? Est-ce que vous avez été surpris par l'un d'entre eux ? Est-ce que...
Je pense que, mais peut-être parce que je suis à moitié marocaine, du coup ça m'a parlé un peu. Je pense que la scène qui m'a le plus plu, c'est la scène chez Ramzy, où du coup il y a sa sœur et où il y a Jonathan Cohen, et où il y a toute une discussion, où du coup il y a deux niveaux de vannes. Il y a la première vanne qui est, est-ce que les Noirs et les Arabes peuvent s'unir dans la lutte antiraciste, et est-ce que les Arabes peuvent être conviés à une marche des hommes noirs? Et en même temps, il y a est-ce que les Arabes et les Juifs peuvent s'entendre, puisque donc il y a Jonathan Cohen qui est arabe et juif et qui a tout le temps des phrases genre semi à côté, genre il est semi d'accord avec ses potes et il rajoute tout le temps un petit truc, ouais. Et ça m'a fait mais crever de rire avec ce malaise qui grandit.
Oui.
Et le personnage de JP, du coup, la magie c'est qu'il se rend jamais vraiment compte de la merde qu'il est en train de foutre, de pourquoi à chaque fois qu'il quitte une pièce, les gens sont en train de s'engueuler alors que tout se passait bien quand il est arrivé. Et il a vraiment une petite tête naïve genre bah du coup, je sais pas, vous pouvez faire tourner sur vos réseaux et les autres ils sont en pleine guerre comme nous. Donc je pense, j'en attendais pas grand chose parce que Éric et Ramzy c'est pas forcément mes humoristes français préférés. Jonathan Cohen j'aime bien ce qu'il fait mais je suis pas une fan hardcore, et puis au final c'est des guests pas noirs dans un film qui parle de la question noire, donc je m'attendais pas forcément à ce que ce soit ma scène préférée, mais je pense que c'est en tout cas celle où j'ai le plus franchement rigolé parce qu'il y a tellement de niveaux de vannes, c'est incroyable.
Ouais, moi il y a plein de choses à dire sur les guests qui, comme on est dans le documentaire, justement, surtout du coup pour les Noirs, prennent un peu, pas une revanche, mais en tout cas, ils essayent un peu de rectifier le tir de ce qu'on dit sur eux. En montrant un peu qu'ils sont conscients des clichés sur lesquels ils jouent, de comment parfois ils doivent faire des compromis pour plaire à une audience française colorblind. Et donc, pour moi, ma plus grosse surprise en termes de guest, c'est Lucien Jean-Baptiste, le réalisateur de La Première Étoile, parce que... c'est un truc un peu personnel, enfin je le connais pas personnellement, mais j'ai pendant une décennie, enfin comment dire, activement détesté tout ce qu'il faisait. Et en fait, d'une certaine façon, il répond aux critiques dans le film, et j'avoue, il m'a un peu fermé ma bouche d'une certaine façon. Donc ouais, Lucien Jean-Baptiste, que je retiens comme le truc vraiment, non. Et ouais.
Mais c'est pour ça ce que tu disais sur le fait qu'il était hyper naïf et tout. C'est pour ça que je parle d'un voyage initiatique parce que vraiment, il découvre un peu tout. Enfin, je sais pas, il est trop bonne patte et en même temps, enfin, tu vois, il a un peu des idées au début, mais il se laisse vachement ouvrir les yeux et enfin plein de trucs. Et moi, j'ai beaucoup aimé le passage avec Fadili Camara, justement, où du coup, c'est des afro-féministes qui sont en meet-up. Ouais. Et du coup, en fait, ils sont là, mais pourquoi tu veux pas que nous aussi on vienne à ta marche, tu vois?
Oui, parce que marche, c'est pour les hommes noirs.
C'est pour les hommes noirs,
pour les noirs de France.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai trouvé ce passage assez cool et ça disait plein de choses. Et j'aime beaucoup Fadili Camara aussi, elle me fait beaucoup rire. Donc voilà, c'était un peu mes.
On l'a reçu dans le chip.
C'est vrai? Oui. Trop bien. J'ai réécouté. Eh ben écoutez, je pense qu'on peut passer au spoiler.
Ok.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc si vous n'avez pas vu le film, vous arrêtez là. Vous allez voir le film parce qu'il est très bien. On est trois à vous le dire.
Exactement.
Et ensuite vous revenez et vous écoutez la partie spoiler.
Voilà. Merci Mimi.
J'aime bien donner des ordres aux gens.
Du coup, on va commencer par parler un peu de ce qui nous avait fait peur au début, c'est-à-dire le rire et le racisme en France, qui sont comment dire souvent associés. Donc, on a des grosses comédies, genre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Coexister, La Première Étoile. Voilà, c'est plein de films qui ont comme premier déclencheur de rire le racisme. Et donc, du coup, dans Tout Simplement Noir, j'ai trouvé que c'était pas du tout le même genre de rire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on rit pas du tout. On rit pas des mauvais moments. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas.
Tu veux dire qu'on rit pas avec les racistes, mais on rit peut-être plus du racisme.
Et même genre de la complexité aussi que c'est d'être, d'être noir en France en 2020, tu vois, et que c'est pas un truc universel, et on découvre un petit peu ça aussi. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et le personnage de Farid, je trouve, notamment, qui est un peu pris pour... je sais pas, il dessert la cause, entre guillemets.
Oui, parce que du coup, ils ont inventé cette storyline basée sur un vrai truc de H&M qui avait mis en scène un petit garçon noir avec un singe sur son pull. Ou du coup, ils lui ont inventé cette storyline, lui, il a fait une pub pour H&M, Banana Lover, et du coup, il se fait insulter dans la rue, comme quoi il est raciste et tout, il est là, ça.
Ou vendu plutôt que raciste vendu, ouais.
T'en penses quoi, toi, de comment on rit dans ce film?
Je suis d'accord que, évidemment, le film n'est pas là pour rire avec les racistes, même si, par exemple, il y a 2-3 vannes d'Éric Judor sur son éveil à sa négritude, c'est sportif.
Franchement, je me suis demandé, mais comment tu convaincs Éric Judor de... C'est risqué, tu vois, parce que
ouais,
même
mais
si...
il a déjà fait des trucs comme ça dans Platane. Tu vois, dans Platane, il a un truc comme ça, parce que Éric Judor, il feint de pas y toucher, de faire non, mais moi, je suis pas black et tout. Et en fait, ça fait 10 ans qu'il dit, mais non, mais moi, je suis pas, c'est une question qui l'intéresse, en fait. Et donc, dans la deuxième saison de Platane, il va un peu à la recherche de ses origines guadeloupéennes, donc c'est pas triste. Mais, sur comment on rigole, en fait, le truc de rire ou de pas rire avec les racistes, je pense surtout, le film, à certains moments, évidemment, parle du racisme, mais le pour moi, ce que je retiens le plus, c'est pas la lutte antiraciste, etc. C'est plutôt les débats qu'il y a au sein de la communauté noire en 2020. Et plus j'y réfléchis à travers mon boulot, ce que je fais, je me rends compte aussi qu'il y a des discussions qui, parfois, sont omniprésentes dans certains milieux parisiens, militants, on aime bien utiliser le mot woke, etc., qui sont des trucs un peu d'entre-soi, qui sont très intéressants et qui sont légitimes, mais qui sont du chinois pour les autres. Et quand je dis les autres, je parle pas seulement des blancs, je parle aussi des noirs qui sont pas du tout versés dans ces questions-là. Et les scènes des discussions de Jean-Pascal avec son père, par exemple, ou même comment Jean-Pascal lui-même, il cherche une date pour sa marche. La question de la date, c'est un truc, j'en parle vachement dans mes visites, de la symbolique de choisir une date pour commémorer, pour se rassembler, etc. Donc, le rire intelligent, il y a à la fois, je trouve, des choses qui sont peut-être du domaine de l'inside joke un peu. C'est peut-être, je dirais, une des seules petites limites du film, c'est que peut-être que moi, ça m'a beaucoup fait rire et beaucoup parlé, et beaucoup emballé, parce que c'est quelque chose que je comprends, et voilà. Mais je peut-être que pour d'autres publics, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais encore une fois, je crois que le film est assez universel.
Ouais, je suis assez d'accord. Mais par contre, moi, c'est une crainte qui a été formulée dans des interviews avec Jean-Pascal Zadi, où les journalistes lui demandaient, mais du coup, est-ce que vous n'avez pas peur de faire un film comique maintenant, enfin, même si c'était pas censé sortir maintenant, avec l'actualité qui est assez dramatique en ce moment, est-ce que c'est pas dangereux de de dédramatiser, même si je pense pas qu'il dédramatise, mais de faire quelque chose de drôle aujourd'hui là-dessus.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
En plus, c'est hyper méta parce que quand le film s'ouvre sur ses sketchs et tout, il y a notamment un sketch où il est déguisé en esclave et où les gens disent on peut pas rire de ça, c'est un manque de respect d'en rire. Et il dit mais moi, il dit en gros, il fait comprendre que lui, par le rire, il veut faire réfléchir et qu'il y a toujours un fond de réflexion et de politique et de message dans ses sketchs sur Internet. Et je pense que du coup, le film lui-même désamorce cette idée que tout dépend, je pense, de quoi on rit et comment on rit. Alors certes, il avait pas prévu que son film allait sortir en pleine... genre remédiatisation du mouvement Black Lives Matter et avec toutes les questions de violence policière raciste et tout, n'empêche qu'au final il parle dans son film du fait de rire de sujets graves et il parle des violences policières, donc sans pouvoir le prévoir, c'est des sujets qui sont tellement... Il y a aussi un truc où je pense il y a plein de gens qui ont un peu découvert Black Lives Matter et les violences policières il y a vraiment pas longtemps avec la mort de George Floyd aux États-Unis, mais c'est un truc qui existe depuis longtemps et qui est dénoncé et compris depuis longtemps dans d'autres milieux, bah, notamment où il y a des gens pas blancs ou des gens de banlieue et tout. Donc ce qui pour nous peut paraître être un truc d'actualité un peu random, en fait c'est des sujets qui sont discutés depuis longtemps et c'est pas, ça a pas été inventé. Je crois qu'il y a un article sur deux que je lis qui dit le mouvement Black Lives Matter qui est né de la mort de George Floyd, et je suis là vraiment, ça fait non. Des années frate.
je suis d'accord avec toi, mais quand je parlais de un peu de sujets que tout le monde ne maîtrisait pas, ne connaissait pas, je parlais pas forcément des grandes actualités sur la violence policière, le thème de la violence policière, même si on fait semblant de le découvrir tous les ans en France, on en parlait déjà dans les années 80, enfin c'est pas très nouveau. Non, moi ce à quoi je pensais, c'est plutôt les trucs de non mixité, tous les débats autour de la représentation et de la place qu'on donne aux noirs dans les médias, dans la culture, etc. Je pense que ça peut passer un peu au-dessus de la tête de pas mal de gens, parce que c'est pas leur problème, quoi. C'est pas un truc non plus si important que ça pour tout le monde. Donc ouais.
On a une scène en festival afroféministe. Ouais. On a l'autre scène où il va voir, alors j'ai oublié le nom du groupe d'hommes noirs qui va voir.
La brigade anti-négrophobie.
Yes, ceux qui lui reprochent le choix de la date de l'abolition de l'esclavage, comme quoi c'est une date de blanc. C'est des cercles où plein de gens, non seulement ne vont jamais, mais en plus ils n'ont pas idée que ça existe. Je pense que si je dis à ma daronne, j'ai été en festival afroféministe, elle sera là. D'accord, ouais. Vous avez fait quoi ? Donc, mais en même temps, après c'est un peu dur à dire parce que moi je sais de quoi il s'agit, mais. J'ai pas l'impression que ne pas savoir ce qu'est un festival afroféministe, ça t'empêche de comprendre la scène et le propos de la scène, tu vois. Il y a peut-être un niveau de lecture supplémentaire quand t'es versé dans ces discussions, et du coup, ça ressemble un peu à ta vie et que c'est peut-être deux fois plus marrant. Mais ma crainte que ce soit un film un peu trop réservé aux gens déjà éduqués sur la question, elle s'est pas vraiment réalisée. Je pense que t'as quand même 90% du message qui passe, même si tu connais pas grand-chose à l'actualité de la lutte antiraciste en France, quoi.
Et puis même lui, j'ai l'impression que donc il s'y intéresse énormément parce qu'il organise cette marche et tout. Et à côté, il va quand même passer des castings avec donc ses
Mathieu
Kassovitz. Et en fait, donc la scène est quand même
brutale.
Irréel. Je sais pas, c'est un peu irréaliste. Où il fait, je sais plus, il dit je voulais l'Afrique, vous me ramenez Montreuil, et je suis là, waouh. Ouais. Et en fait, il réagit pas à ce moment-là parce qu'en fait, il est aussi partagé avec ce rêve de devenir acteur, ouais. Et que aujourd'hui, en fait, dans le cinéma français, bah tu peux pas être, enfin sauf du coup Jean-Pascal Zadi qui se crée son propre rôle, mais c'est le seul moyen, et c'est ce qu'il dit dans une interview aussi, dans son interview pour le Move, qui est une longue interview de 30 minutes, où il dit en fait que le cinéma français n'est pas raciste, mais qu'il a des lacunes, et que du coup il faut envahir les boîtes de prod de script,
faut spammer.
Non mais voilà, faut spammer avec des nouvelles histoires.
Bah vas-y, go.
Mais il dit faut spammer avec des nouvelles histoires que en fait qui aujourd'hui paraissent un peu hors je sais pas, cinéma normal, enfin entre grosses guillemets, quoi. Mais du coup qu'il faut spammer avec des nouvelles histoires et que les gens s'habitueront, en fait, et que voilà. Donc il dit de ne pas faire un film parce que je sais plus, alors c'était quoi ? Il disait c'est pas un film de noir, mais c'est un film français avec des comédiens noirs. Voilà. qui demande d'arrêter les généralités.
Et en même temps, ça reste un film sur la question de l'antiracisme. C'est pas juste on va faire un film français genre Les Petits Mouchoirs, mais juste ils vont être tous noirs parce qu'en fait en France il y a des noirs et qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas jouer ça. Je pense que les deux peuvent cohabiter. C'est la même chose qu'on a vu avec les rôles féminins où on essaye toujours de prendre la place qui devrait nous revenir. Et du coup, il y a à la fois faire des films de femmes qui parlent de la condition de femme et faire des films de femmes qui sont juste, bah, il se trouve que les personnages, c'est des meufs, tu vois, et que du coup, t'es pas obligé de faire un film féministe juste parce qu'il y a des meufs dedans. Et
bah, oui.
L'histoire a montré que tous les films avec des meufs ne sont pas féministes, comme tous les films avec des noirs ne sont pas antiracistes. Mais je trouve ça hyper bien. En fait, pour moi, j'aurais vraiment pas pensé que le cinéma français me donnerait ça en 2020. Pour moi, on en était loin. Ça ressemble à des prods américaines que j'ai pu voir qui sont beaucoup plus intelligentes et qui me parlent plus sur la vision de l'antiracisme et qui, en plus, voilà, bah, mentionnent toutes les questions intracommunautaires, comme tu dis, à toutes les questions qui agitent les militants entre eux. Des choses comme dire white people aux États-Unis, par exemple. Je pensais pas du tout que le cinéma français allait valider et produire ça. Alors, j'imagine que c'est pas le film le plus cher de l'année. Et en même temps, il y a un casting quand même pas mal.
Et en même temps, c'est Gaumont qui le distribue.
Ouais, voilà, ça sort en salle. C'est pas un petit truc un peu niche qui va être diffusé dans 3 cinémas d'arrêt d'essai à Paris. C'est vraiment genre... un grand film, quoi.
Là dans l'IB, la question, c'est est-ce que ça va être un petit coup de boost pour justement la reprise après le Covid pour les cinémas. Donc voilà, ce sera assez marrant qu'il arrive un peu à la rescousse du cinéma. J'espère qu'on en discutera au moment des Césars. Mais ouais, je suis complètement d'accord sur le côté malin et culotté du film. Quand tu disais que tu pensais pas voir ça dans le cinéma français, en fait c'est une sorte de serpent de mer qui revient dans toutes nos discussions du type dès qu'on parle de contenu culturel français principalement noir, on est souvent frustré. Après il y a des choses, il y a des choses très bien qui se font, mais par exemple moi j'aime beaucoup les comédies, j'adore les comédies américaines, donc c'est sûr que j'ai un peu abandonné le cinéma français. Même si, en tout cas sur cette question-là, même si dès qu'il y a eu, tu vois, ces 5-10 dernières années des comédies avec des noirs, des films avec des noirs, j'ai joué le jeu, donc j'ai vu quelques croûtes, quoi. Et juste un peu par solidarité pour jouer le jeu. Et je sais pas, je pense à par exemple comment ça s'appelle, Black Mamba avec Thomas N'Gijol.
Tout le truc avec Fabrice Eboué et Casse Départ dans Tout Simplement Noir que j'ai trouvé hyper intéressant parce que moi j'ai vu Casse Départ et j'étais là ok. C'est quand même j'arrive pas à dire si ça tape juste mais fort ou si ça tape fort mais à côté. Enfin, j'étais dans une forme de malaise où j'étais là, est-ce que je suis mal à l'aise parce que je suis semi-blanche mais quand même globalement blanche et du coup pas concernée, ou est-ce que je suis mal à l'aise parce que peut-être le film rate un peu son propos, j'arrive pas à savoir. Donc j'étais contente qu'il s'en reparle dans
Alix,
tout simplement.
Tu l'as vu?
Non, je l'ai pas vu.
Mais tu connais le sujet du
non,
film?
Non, pas du tout.
C'est deux noirs français du 21e siècle qui ont un peu rien à foutre de leurs origines et qui par magie sont transportés à l'époque de l'esclavage aux Antilles. Et donc c'est une grosse comédie et en fait c'est sorti il y a une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et moi dans mon cercle proche, ça a été un motif d'engueulade de mes amis tous Martinique et Guadeloupéens, parce que j'étais un des rares à défendre le film en fait, en disant que d'une certaine façon je crois à un droit à l'irrévérence. Que ok, il y a jamais de film sur l'esclavage qui sort en France, et donc le premier vrai film sur l'esclavage, c'est une comédie, ce qui montre aussi le peu de sérieux qu'on y accorde, peu d'estime qu'on a pour ce truc-là en France. Mais en même temps, que Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol, ils ont le droit d'être des punks et d'être irrévérencieux. Et en fait, moi, ce qui m'a gêné dans les années qui ont suivi et qui m'ont fait un peu changer ma position sur Casse Départ, c'est que en fait, il y a le sentiment que sur ce genre de trucs très traumatisants, l'esclavage, etc., il y a que pour ça qu'on peut rigoler en fait. Il y a que pour ça qu'on peut faire une comédie un peu destroy qui respecte rien, à l'évasion on s'en fout. Il y a plein d'autres sujets où on peut pas aller et donc c'est un peu bizarre de se dire on est le seul groupe qui doit accepter ce genre de truc là. Donc bref, c'est ça. Pareil, quand ils en rediscutent dans le film, pareil, moi j'étais en PLS quoi, j'étais là mais oui, mais cette discussion je l'ai déjà eue, etc. Donc ouais, ouais.
Mais c'est marrant, mais aussi Lucien Jean-Baptiste, à un moment il se fait insulter de Bounty.
Ouais.
Et Lucien Jean-Baptiste qui fait beaucoup de comédies familiale. Notamment familiale, première étoile, deuxième étoile, mais il a fait aussi qu'est-ce que c'est que cette mamie, c'est quoi cette mamie, c'est quoi ce papy, enfin bon, voilà. Et donc il fait des comédies familiales et il a été, enfin en fait il se fait accuser dans le film de un peu desservir la cause, mais
oui, clairement.
Ouais, c'est ça. Et en fait, enfin c'est aussi drôle parce que donc c'est un peu méta parce qu'il vient dans le film pour se faire insulter de ça alors qu'il se le fait il se fait vraiment insulter de ça dans la vraie vie et donc comme tu dis il se défend aussi et mais je me demandais en fait à quel point ça a été facile ou difficile d'avoir tous ces guests dans ce film et en fait Jean-Pascal Zadi en parle dans une interview où il dit en fait tout le monde était chaud.
Ouais, tout le monde avait un truc à dire.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Tout le monde a un truc à dire. Et le rire, ça rassemble aussi. Et c'est, enfin, comme il dit, le film et le cinéma, ça rassemble les gens. Et notamment autour du rire. Et du coup, ouais, tout le monde était chaud d'avoir son truc à dire, quitte à se faire un peu, pas détester, taquiner sur ses propres travers, quoi. Comme Éric Judor qui pareil, tu vois, c'est drôle parce que du coup, c'est il y a une part de vérité vu qu'ils jouent tous leur rôle. Enfin, voilà.
Il faut avoir quand même un sens de l'autodérision parce que je pense que si demain, alors bon, c'est pas la même génération, mais si demain tu proposes à Catherine Deneuve un rôle où elle doit rire du fait qu'on l'a traitée d'antiféministe parce qu'elle avait fait la tribune Liberté d'importuner et tout. Si on lui propose un rôle où en fait elle va débattre avec une meuf qui lui dit toi t'es une mauvaise féministe, même si en fait le débat il y a pas de gagnant quoi, les deux ont leur truc à dire. Je suis pas sûre que Catherine Deneuve elle soit
chaude. Je sais pas, il paraît que c'est un peu une punk. Hein.
Peut-être, j'aimerais bien voir des meufs faire ce film là avec Catherine Deneuve parce
aussi.
Que
je paye.
Faut quand même oser quoi.
Je vous invite dans mon podcast pour en parler. Si vous avez ça sur.
Allez,
droite. Et du coup aussi le film donc pose beaucoup la question de c'est quoi être noir en France en 2020 et du coup de la difficulté de tous s'associer parce que en fait comme j'ai dit tout le monde a dit oui mais chacun a un truc un peu différent à dire sur la question. Enfin moi je me suis retrouvée non pas en tant que noire parce que je suis pas noire mais en tant que féministe tu vois où je travaille dans un magazine quand même tous les jours où en fait on a des divergences de féministes et on voit qu'entre femmes en fait on n'est pas une communauté enfin qu'on a des cultures différentes on a des habitudes différentes aussi et donc le terme féministe en fait il est un peu vague comme le terme être noir tu vois c'est un, je me suis retrouvée vachement là dedans je sais pas ce que vous en avez pensé mais
Le film fait un assez bon boulot en moins de deux heures de montrer en fait que et c'est quelque chose auquel tous les grands rassemblements noirs se sont confrontés que oui il existe une culture noire mais c'est très flou c'est très compliqué de mettre des frontières qui est dedans qui n'est pas dedans c'est très compliqué ils abordent donc la question des métis. L'opposition très forte en France africanti la question LGBT de façon je trouve assez maligne et c'est très taquin c'est très taquin un peu pour justement la réception de ces films qui sont célébrés parce que voilà et puis évidemment une question qui était inévitable c'est la question des femmes c'est-à-dire que et ça montre un peu la naïveté et la bêtise du personnage aussi parce que Jean-Pascal il se définit pas comme un héros classique hein c'est au début c'est vraiment patriarcat noir nous les hommes noirs on est nulle part on va s'organiser et en fait si t'es un petit peu attentif sur ces dernières années justement à la communauté noire tu vois que les principaux leaders c'est des femmes de façon sans ambiguïté etc les personnalités les plus connues en politique journalisme etc c'est activisme c'est des femmes donc imaginez qu'il va faire une marche sur la question noire sans mais pas juste convier mais même sans s'appuyer sur toutes les militantes noires c'est un petit peu illusoire. Donc il se fait remettre à sa place et justement quand il arrive à l'AG féministe je fais il va se faire plier et voilà
ouais. Parce qu'en plus il a même pas vraiment d'arguments
il a zéro argument
je sais pas ce serait compliqué
venez du coup merci les sœurs c'est cool
ouais et du coup là-dessus il plie très vite mais en fait il plie parce que juste il a aucune c'est là aussi où le personnage est intelligent c'est qu'en fait il est pas borné dans son truc et autant ça peut se discuter genre est-ce qu'il faudrait joindre les arabes à une marche pour les noirs est-ce que ça brouille pas le message autant sur les femmes noires c'est vraiment juste mec c'est quoi ton problème on est en 2020 tu vois
ouais c'est exactement ça
il y a le truc aussi qui pareil est abordé de façon très subtile enfin moi j'ai trouvé ça subtil c'est la question de l'amour interracial dans la première scène donc quand il explique qu'il en a marre que les hommes noirs c'est pas possible etc il s'enregistre et donc il y a sa compagne qui rentre dans le salon et qui lui dit en gros t'es pas allé chercher le gamin à l'école et qui est évidemment une femme blanche et en fait il y a rien n'est dit mais en fait le spectateur noir qui connaît un peu ces débats dans la communauté pouffe de rire. Et la deuxième scène à la fin de l'AG afroféministe avec Fadili qui tient un discours machin et qui part avec son petit copain blanc, et aussi très représentatif aussi d'une réalité française sur les couples interraciaux, les couples mixtes, etc. C'est une particularité française aussi qui est intéressante.
Mais du coup j'ai trouvé si on part un peu sur le militantisme, en fait j'ai trouvé aussi que le film soulignait à quel point tu peux être vite discrédité en tant que militant pour le moindre truc que tu fais, en fait. Et rien que te marier avec une blanche, genre direct c'est bon bah non, en fait t'as plus de crédibilité. Ou quand il va il se rend compte qu'en fait il a pas pris la bonne date, bah pareil, il s'est là, mais comment tu peux pas savoir ça, et donc en fait t'as l'impression que tu dois être parfait ou rien. Et moi je sais que c'est ce qui me retient parfois d'être plus militante, c'est que parfois je suis là oh non je saurais pas dire tout, donc en fait je préfère rien faire. Que et c'est intéressant en fait de voir que lui, du coup, enfin la question du militantisme par ce film, c'est aussi de montrer que c'est pas grave si tu connais pas tout, justement va parler avec les gens, va t'asseoir avec des gens et parler sans tabou, en fait, et bah tu vas forcément apprendre des choses et te cultiver.
Et t'engueuler pas mal.
Et c'est pas grave.
Ouais, il faut l'accepter, hein.
Ouais, mais en fait de parler de trucs, enfin de s'éduquer en fait à des trucs que tu connais pas forcément, et de pas avoir peur de le faire, et de pas avoir peur de parler des choses, c'est aussi, je trouve, qui fait la force du film, quoi, que lui soit un peu dans son chemin
très plein naïf, de bonne volonté, quoi. Ouais, et de naïveté, quoi. Mais du coup oui, c'est un truc, au moins il a pas peur d'y aller, et je pense que pour plein de gens voir ce film ça va être aussi une façon d'entendre des discussions sur ces sujets qu'ils osent pas forcément aborder eux-mêmes, parce qu'ils se disent non mais je vais pas assez, pourquoi si je pose des questions bêtes on va me dire que je suis pas assez bien, naninana. Donc c'est hyper intéressant. S'il y a un truc, du coup j'y ai pensé quand t'as parlé de sa compagne, un truc que je regrette peut-être, c'est que le sujet de la paternité est très peu creusé, parce que donc il a un fils qui doit avoir 9-10 ans, peut-être moins, je sais pas l'âge qu'ont les enfants,
qui est un de ses vrais, enfin qui est son fils aussi je crois.
Ah, c'est son vrai fils
à la ville, ouais.
Et donc il y a une scène où donc la première scène, ça meuf l'engueule parce qu'il a pas été chercher le gamin, et il y a une scène où il dessine avec son gamin, il lui dit à l'école on t'apprend pas à dessiner des noirs, on t'apprend que à dessiner des blancs, donc il lui fait dessiner Kylian Mbappé et c'est mignon. Mais au final il y a pas du tout de, enfin c'est voilà, c'est très très en sous-texte, les réflexions sur qu'est-ce que c'est que d'être un père noir avec un enfant métis, qu'est-ce que cet enfant il vit, qu'est-ce que lui il vit en tant que père, mais limite ça pourrait faire une suite,
un autre film, ouais, carrément.
Ce sera, mais du coup bien, j'étais un poil frustrée, je me suis dit ah il a un gamin, je me demande si ça va revenir dans le film, et au final ça revient pas beaucoup, mais bon il y a tellement de choses dans ce film, mais limite j'étais là au pire mais le pas et fait un 2 où c'est tout simplement un père noir, où je sais pas, t'as eu ton fils quelques années après, et puis tu vois qu'est-ce que ça change dans ta vie d'homme noir en France, c'est quoi la vie d'homme noir que ton fils va avoir qui va pas être la même que la tienne, quoi.
En fait là il parle plus de sa relation à son père, en vrai, en creux, qui a peut-être pas plus de temps à l'écran que son fils, mais qui est un peu la personne qu'il veut convaincre, je crois qu'il y a ça. Mais je suis d'accord avec toi que le truc de la paternité est pas hyper creusé.
Mais oui, avec son père en fait, lui il revendique beaucoup son héritage, alors que son père essaie de le taire, et en fait j'ai trouvé ça ultra touchant. En fait moi j'ai adoré la fin aussi, parce que donc tout le film est très drôle, ça parle de militantisme etc, et ça montre aussi à la fin la réalité dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui. Et donc il mentionne les violences policières, puisqu'en fait il se fait lui-même attaquer, et donc là c'est, donc il y a pas de commentaires, enfin c'est juste la caméra qui filme ça, et il rentre dans le commissariat, et voilà, enfin c'est, je trouvais une scène assez poignante, et surtout la fin aussi de cette manif, donc il a finalement réussi à installer, mais il y a genre 8 personnes et Eric Judor bien sûr.
En Nelson Mandela.
Il prend beaucoup de place, Eric Judor.
Il y a que lui qui pouvait pour cette scène. Il y avait Eric Judor pour faire Mandela à la fin.
Ah, faut avoir le courage, hein, parce que franchement, en tant qu'acteur blanc, de propose ça, t'es là, pas sûr.
mais du coup, ouais, ça montre aussi cette peur aussi du militantisme où personne ne vient à la manif. Ouais. Tout le monde a des trucs à dire, mais personne ne vient à la manif. Même si aujourd'hui, on voit qu'en France, notamment pour les manifs pour Adama Traoré, il y a eu beaucoup de monde. Et malgré le contexte genre de Covid et tout, les gens se déplacent quand même. Donc ça change un petit peu. Mais ça te remet dans le contexte des violences policières, et ça donne au film un ton beaucoup plus grave. Et ça montre aussi pourquoi se battent les militants, je trouve.
Ouais. Je trouve que c'est là où je voulais en venir en plus, c'est que quand on regarde le discours politique mainstream le terme de communautarisme, il est je suis pas en train d'être un grand avocat défenseur du communautarisme, mais il est jamais présenté de façon neutre et bienveillante. C'est-à-dire il y a la République qu'on aime tous.
Bien sûr, notre mère à tous.
Et la dérive communautaire. Et en fait, c'est jamais présenté comme ben il y a des pays qui font un petit peu différemment, il y a d'autres façons de faire le truc, c'est pas parfait, notre système est pas parfait, pourquoi on verrait pas comment les... Non, c'est pas comme ça. Et donc le séparatisme, le tribalisme, tous ces trucs qu'on entend de tout le temps dès que ça revient, ben en fait ça les humanise un petit peu en fait. C'est justement ces milieux militants qu'on imagine hyper fermés, etc. Non, en fait il y a une vraie diversité et entre par exemple les discussions qu'il va avoir chez Joey Starr,
oui.
C'est un peu showbiz et donc il y a le showbiz de couleur qui se retrouve et qui parle d'un truc de showbiz ou l'AG afroféministe ou la brigade anti-négrophobie, ça n'a rien à voir et pourtant ils parlent tous de la même cause et ça montre que ouais il y a une diversité, que vous si vous posez des questions, si vous êtes dans courant ou dans autre, bref, voilà plutôt votre scène, donc ouais, ça aussi bien joué.
Non, très très fort. Et pour finir, du coup, est-ce que à qui vous recommanderiez ce film ? Alors, je sais que c'est une question un peu large, tu vois, mais est-ce que toi, par exemple, Mimi, tu disais au début, tu te demandais si tu pourrais emmener tes parents. Est-ce que tu pourrais emmener tes parents ou pas ?
Je pense que je pourrais emmener mes parents, parce qu'en plus, il n'y a pas de scène de cul, et ça, mes parents n'aiment pas du tout, donc c'est déjà ça. Et je pense que, en fait, je pense que ma mère, en tant que marocaine de souche, même si c'est pas le même antiracisme, se reconnaîtrait dans beaucoup de discussions qu'il peut y avoir. Mon père étant un français relativement woke, mais bon, de 62 ans, je pense qu'il découvrirait pas mal. Et je pense que, en fait, j'aimerais que tout le monde aille voir ce film, juste pour... J'aimerais être une petite souris dans tous les bars d'après-séance où les gens vont débattre et s'engueuler et pas avoir compris les mêmes choses, mais au moins ils parleront peut-être pour la première fois de leur vie de sujets qui font partie de la vie de plein de Français et Françaises et qui sont importants à discuter. Et en fait, j'espère surtout que après ce film, il va y avoir une envie de se dire, bon, bah, je vais aller voir un spectacle de Farid, je vais aller voir un film de Fabrice Eboué, je vais aller me renseigner sur ce qu'ils font ces gens-là parce que il y a tellement de facettes différentes d'être noir en France et de militer pour la cause noire en France que tu peux pas te reconnaître dans rien dans ce film. Il y a forcément le discours d'au moins un personnage slash une personne, parce que c'est un peu flou, qui va te parler et qui va te donner envie d'en savoir plus. Donc pour moi, c'est un film qui est précieux pour ça, quoi.
Ouais.
Ouais, là, et aussi on a oublié de le dire, enfin tu le dis, c'est que même parmi les gens qu'il rencontre, les noirs avec qui il discute, il y en a qui disent je veux pas ton étiquette de noir, je sais plus comment elle s'appelle, une journaliste qui aussi joue son propre rôle et qui lui dit arrête de dire que je suis une journaliste noire, donc alors que moi je travaille avec des journalistes noirs qui en ont marre qu'ils puissent pas s'exprimer parfois sur ces questions là, donc il y a toute cette complexité. Tu mentionnais aussi tu vois à plusieurs reprises la question arabe, la question maghrébine, et c'est aussi en ça que Jean-Pascal, le personnage est un peu naïf, où il tombe de la dernière pluie, parce que des marches antiracistes, si on veut parler par exemple de communauté maghrébine en France, il y en a, mais depuis très 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 longtemps, donc encore une fois il invente pas non plus grand chose, mais c'est vrai que cette histoire est tellement mal connue que peut-être que chaque noir qui prend une initiative en France a l'impression d'être le premier à faire un truc, alors que en fait voilà. Et puis à qui, pour répondre à la question sur à qui je le conseillerais, je le conseillerais à tout le monde. Par contre, il y a un truc que j'aimerais vraiment, et ça c'est ma déformation de guide touristique pour principalement pour touristes afro-américains, c'est que le film il soit traduit et exporté à l'étranger, parce que moi avant le Covid mon métier c'était un peu aussi d'expliquer à des afro-américains qui ont une culture, une histoire différente, à quoi ressemble la question noire en France en 2019, en 2020, et donc quand je leur parle de trucs parfois je c'est Mars, quoi, pour la façon dont on parle de race en France. Et donc, j'aurais adoré que le film soit bien traduit et pouvoir leur dire, regardez sur Netflix ce film, vous verrez comment juste, on ne sait pas comment dire, noir, black, métis.
Il y a toute cette question aussi, de comment, tu sais,
comment on se détermine.
Tu vois, et puis un truc que tu peux pas savoir si tu t'éduques pas non plus, quoi.
Sur des trucs très concrets où en fait la France est tout à fait capable d'avoir des discours antiracistes super inspirants, bluffants, même parfois pour des Américains convaincus, tu vois, à qui je dis non, en France il y a pas de race et tout, faut arrêter, non pas de catégorie ethno-raciale, et il y a des Américains qui me disent ah ouais, c'est pas con, c'est pas mal, c'est vrai que des fois on n'aime pas être mis dans des cases, et je leur dis par contre le premier noir à représenter le JT c'est en 2007, et ils font mais non les gars, faut pas accepter ça, faut pas
C'est pas une science exacte. Hein. C'est pas la République.
C'est pas. Mais non, mais c'est horrible. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Je me dis, c'était comme ça. Il y avait pas besoin. Et donc il y a tout ce truc où il y a le discours, la pratique, le casting, la scène de casting avec Kassovitz. Ouais. Tu vois ce truc qui fait écho. Il y a aussi des choses que les actrices noires mentionnent dans Noir n'est pas mon métier. Je crois que c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça, 2-3 ans, où elle parle de comment elles sont animalisées dans les trucs. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là que j'ai déjà eues avec des étrangers. Et là, j'aimerais bien aussi que, un peu à l'international, la France soit un peu mise devant certaines de ces contradictions. C'est toujours intéressant.
Oui, parce que nous, on reçoit beaucoup de culture américaine aussi. Ouais. Enfin, moi, oui, je regarde énormément de films sur ce sujet américain. Mais ouais, c'est vrai qu'on a aussi une vision différente et pourquoi pas intéressante, quoi. Mais ouais. Moi j'aimerais bien, ouais, pareil, que tout le monde le voit. Et ouais, je sais pas, moi j'ai grave envie d'emmener mes parents, du coup, tu vois. Je sais pas, je me dis.
Ah bah, si, franchement, si j'arrive à m'y emmener mes parents et qu'après on peut se faire un resto et débattre,
ouais.
J'ai un peu peur parce que je me dis, imagine, ils disent des trucs horribles et tout, mais je pense pas. Mais c'est une discussion que j'aurais, je pense, jamais, enfin, que j'ai jamais eue avec mes parents sur la place des Noirs en France et le racisme spécifiquement contre les Noirs, alors qu'évidemment on a eu beaucoup de discussions sur le racisme envers les Arabes puisque ça fait partie de notre vie. Mais si ce film peut me permettre de l'avoir, ouais. Je trouve que c'est riche, quoi.
C'est clair. C'est
cool. Moi j'aimerais bien aussi le voir avec mes parents, mais eux ils vivent en Martinique, donc c'est aussi des questions là. Eux ils ont vécu pas mal de temps dans l'Hexagone, donc ils connaissent ces questions de militantisme, mais eux c'était dans les années 70. Donc, et puis après dans les années 80 ils sont revenus vivre en Martinique et ils ont la télé, ils voient ce qui se passe, mais ils sont pas justement dans les débats de la génération d'après. Et je pense que ouais, ça
a dû changer en plus.
Bah ouais, de ouf. Les communautés maoïstes martiniquaises, c'est fini ça. Donc on est passé à autre chose depuis. Donc ouais, c'est cool, c'est intéressant aussi.
Trop bien. Et ben merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Mimi. Et
c'était
Kévis.
Trop bien,
merci,
trop
merci.
Cool. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast comme d'habitude, ainsi qu'un petit commentaire et surtout à nous dire ce que vous avez pensé de Tout Simplement Noir. Voilà, venez débattre avec nous et dire
fait.
Que vous avez kiffé aussi. Voilà.
Et allez, vous pouvez aussi écouter le chip.
Et bien sûr,
faire une visite
allez
du Paris Noir.
Ce sera voilà
dans la description.
Tous les liens sont dans la description du podcast. Et puis à la prochaine.
À la prochaine.
This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for adventures in rain, shine, mist, or snow. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase.